Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Ah, Nicole Gibeault est avec nous. Salut, Nicole.
Bonjour.
Ben écoute, j'avais hâte de te parler de ce qui s'était passé en fin de semaine. Pas dans les parcs, là. Je pense qu'on en a assez parlé.
Ben ouais.
Mais manifestation contre le couvre-feu dimanche soir à Montréal, dans le Vieux-Montréal. C'était prévisible, là. Je pense qu'il y aurait des soulèvements. C'est une mesure qui, en ce moment, vraiment suscite la grogne. Mais moi, quand j'ai vu les images de casse commencer à circuler, puis je veux quand même dire que tu sais, quand on parle de grabuge de casse, d'émeutiers comme ça, c'est un petit groupe de personnes parmi tant d'autres, là, puis on a tendance à focusser là-dessus. Il y a des gens qui ont défilé, bon, pacifiquement, sans masque. Là, ça, on peut remettre ça en question, c'est pas correct. Mais pour les casseurs, c'est un groupe restreint de gens, mais j'ai trouvé ça quand même révoltant. Des gens qui s'attaquaient aux restaurants, au commerce du Vieux-Montréal, alors que, bon, on s'entend que c'est eux qui ont mangé la claque pas mal, beaucoup pendant la pandémie, et que souvent, les gens qui sont contre les mesures sanitaires et qui sont un peu dans cette idée de dire que les mesures sont drastiques, ben ils se disent que les mesures sont en train de tuer l'économie. Donc, je trouvais ça un peu antiproductif comme stratégie.
Ben c'est le mot est faible, hein. C'est antiproductif. Non, mais le message, mais c'est, t'as raison. C'est souvent des plus petits groupes, là. Je pense pas qu'on a vu toutes les personnes agir de cette façon-là. Mais malheureusement, ça a souvent un effet de, tu sais, ça entraîne certaines autres personnes qui étaient juste sur le bord. Ils auraient probablement pas fait de casse, mais là, regarde, on renverse une poubelle, on met le feu, on casse des, tu sais, évidemment. Mais, ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est le débordement. Puis l'écœurement, la pandémie, les mesures, le beau temps, tout est exacerbé par la situation, bien, fait en sorte que les gens sont à fleur de peau. Bon, est-ce qu'il y a eu des émeutes autres qu'en pandémie? Ben oui, il y en a eu. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Ben oui, il va en avoir d'autres. Mais c'est très dommage parce que le droit de manifester, je parle pas après 20 heures, ça c'est une autre affaire, c'est des règles qu'on devait suivre. Les policiers auraient pu probablement s'en occuper d'une autre façon. Mais là, quand on parle d'émeutes, quand on parle de grabuge, et là, j'entendais là qu'il y a des possibilités d'accusation pour plusieurs personnes, de méfaits, d'incendie criminel, d'introduction par effraction, d'entrave au travail des policiers. Ça, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est au code criminel, là, si on est trouvé coupable, tous et chacun peuvent encourir des peines d'emprisonnement certainement auront un casier judiciaire s'ils étaient trouvés coupables. Pour certains, c'est des récidivistes. Moi, je suis certain qu'on va retrouver probablement dans certaines arrestations, des gens qui sont un peu habitués à la situation. Dès que ça lève à Montréal ou ailleurs, on voit souvent des mêmes figures. Ça veut pas dire que c'est le cas, là, mais ça se peut. Et ça, en soi, ben, quelqu'un qui est récidive dans ce domaine. Puis là, on va ajouter le facteur aggravant qu'on est en pandémie, parce que c'est sûr que quand on parle normalement d'un méfait, quelqu'un va, bon, casser une bouteille ou quelque chose du genre.
Mais mettons, il y a une gradation, c'est ça, casser une bouteille versus mettre le feu, péter des vitrines. Puis il y a des résidents du Vieux-Montréal, je lisais qu'une dame avait eu peur que les émeutiers pénètrent à l'intérieur de son immeuble, puis rendu là, elle savait plus trop ce qu'elle allait se passer, là.
Non, c'est absolument hallucinant de voir ce qu'on... Tu sais, à chaque fois, je me souviens d'avoir vu les émeutes à Montréal, même pas en pandémie, puis on disait c'est vraiment hallucinant de voir la façon dont ces gens-là... ce qui est un peu inconcevable, c'est que normalement, on dit, mais c'est épouvantable, ces gens-là étaient masqués. Là, ils étaient pas masqués.
Oui, ça, c'est pas fort, parce que tu vas te faire pogner à sirène, Nicole.
C'est pas fort, là. Dans les criminels les plus brillants, là, c'est pas ceux-là, là. Alors, normalement, on s'insurgeait de voir, mais c'est épouvantable. On devrait pas accepter que les gens se promènent masqués. On est en pandémie. Là, il faut qu'ils se masquent. Ils se démasquent. Puis après ça, les policiers vont être en mesure, probablement, avec certaines vidéos, là, de faire des arrestations. Puis je pense qu'on n'arrêtera probablement pas à 7. Alors, non, c'était pas brillant, puis c'est bien malheureux, parce que le droit de contester, le droit d'être écœuré, le droit comme moi, comme toi, on le répète à chaque jour ou à chaque deux jours, on est tous tannés, mais
c'est... Oui, puis c'est un droit fondamental, et puis c'est la démocratie de pouvoir manifester, mais le grabuge, c'est moins souhaitable, et c'est vraiment malheureux. La police qui a remis aussi quand même des contraventions tout au long de la fin de semaine, mais je voyais des images, Nicole, je sais pas si tu as vu ça circuler, des gens qui disaient « Pourquoi moi? » C'est-à-dire quasiment dans les parcs, les policiers à un moment donné devaient sévir, prenaient un groupe et là donnaient des contraventions. J'ai l'impression qu'il y en avait plein les bras.
Oui, mais c'est drôle parce que la phrase tout de suite, là, pourquoi moi?
Oui.
C'est toujours le moi. Pourquoi moi? Ben oui, parce qu'il y a peut-être pas, s'il y a 400 personnes dans un parc, il n'y a peut-être pas 400 policiers pour vous donner 400 personnes. Donc, il y a probablement quelqu'un là qui va ressortir, ou enfin un groupe un peu plus lourd en population au lieu d'être 400 qui était 15 là. Alors, c'est pour ça le moi. Alors, oui, ça peut arriver. Excepté que ce moi-là, là, il devrait savoir que ce sont ça les conditions, les lois en matière de... Puis on les aime pas, là, on fait le bilan. Après, je l'ai dit, je le répète, on l'a dit ensemble. On fait tout ça, un autre bilan. Là, on est dans une... Il y a une éclosion épouvantable. Puis écoute, moi, je demeure, je le répète, là, à côté de l'Ontario, qui me fait peur. Ça n'a pas de bon sens. 4456 cas hier.
On s'est collé sur nous, là.
C'est collé, et j'entendais quelque chose aujourd'hui qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ouais. Apparemment, que les hôteliers à Montréal ont appelé, ou je sais pas où, en région, à quelque part, pour dire c'est plein d'Ontariens dans nos hôtels. Nous, on les aime bien, les Ontariens, là, mais en ce moment, à 4456 cas, puis les variants avec un stay at home, parce que les autres, ils ont un ordre de rester chez... Ils font... Alors, si tout le monde prend, non pas moi, on le dit, on le répète, alors on peut-tu utiliser le nous allons passer à travers, solidairement, il nous reste deux mois, nous allons, et puis je vais te dire, Geneviève, j'ai vu des jeunes avec ce discours-là, puis mon Dieu que ça fait chaud au cœur de les entendre.
Oui, puis en même temps,
sortir eux autres, là.
Ben oui, parce qu'on voit juste le négatif, puis c'est plate, puis en même temps, j'ai envie de te dire qu'en ce moment, on a un problème d'adhérence aux mesures dans toutes les strates de la population, là, on voit beaucoup les jeunes dans les médias parce qu'on aime les pointer du doigt, ça prend un coupable, mais j'ai envie de te dire que des délinquants, il y en a de tous les âges, mais on aura tantôt quelqu'un spécialiste un peu des mouvements de foule, de la psychologie des foules. Non, Fred me dit non. Dis-moi rien. En tout cas, quelqu'un qui va nous expliquer ce phénomène-là. Parce que ce que j'ai envie de te dire, c'est, j'en discutais tantôt avec Benoît, Nicole, c'est de dire à un moment donné, il faudra des objectifs clairs. Il faudra nous dire, ben quand on sera à tant de cas, on fera ça. Quand ça aura descendu, vous retrouverez ça. Peut-être que c'est ça que ça va prendre pour que les gens adhèrent aux mesures.
Oui.
Parce qu'en ce moment, juste de dire, ben écoutez, là, on sévit, puis si vous êtes pas fait, on va avoir un couvre-feu. Visiblement, là, ça ne fonctionne pas.
Mais par contre, j'ai envie de te dire que si ça change en 24 heures, on va dire quoi encore?
Tu sais, on n'aura pas le choix de sévir, mais on pourrait expliquer les décisions de santé publique.
On va dire, ben là, vous nous avez pas dit ça hier. Ça circule à une vitesse de la lumière. C'est vraiment rapide en ce moment avec les variants.
Mais expliquez-nous les décisions de santé publique qui sont prises à un moment donné. C'est vrai qu'il faut pas sous-estimer l'intelligence des gens. Un procès quand même, Nicole, qui me fait me questionner sur la non-responsabilité là pour cause psychiatrique. Qu'est-ce qui arrive quand un accusé refuse de faire des examens psychiatriques? Moi, je pensais même pas que ça se pouvait. Je parle ici de la cause de John Resetnik en 2018 qui a poussé un homme qu'il ne connaissait pas dans le métro à Toronto. Le plaidé coupable fin janvier à une accusation de meurtre non prémédité pour avoir tué cette personne-là. À cette époque-là, là, on avait évoqué des troubles mentaux à cause d'antécédents, d'anxiété, de dépression, mais cet homme-là n'a pas voulu se soumettre. Moi, je pensais même pas, Nicole, que ça se pouvait. Moi, j'étais fermement convaincue qu'un juge était dans la position d'ordonner à un accusé de subir une évaluation psychiatrique.
Bon, c'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves là, parce que c'est deux choses, oui, mais à deux niveaux. Il y a deux niveaux en matière criminelle. On n'est pas en matière civile. En matière criminelle, lorsque la personne comparaît, OK, la première étape, on va mettre ça simple, là, à la première étape, il faut que le tribunal, avant de s'assurer là, qu'il va avoir un procès, puis que soit devant jury ou devant juge seul ou peu importe, que cette personne-là accusée comprend la nature de l'infraction et est en mesure d'aviser adéquatement son avocat sur une situation qui peut se présenter. Mais on demande un minimum, là. C'est pas, on demande pas, là, un quotient intellectuel à tout casser. On fait juste, c'est ça, les critères. C'est des critères bien simples, là, qu'il faut qu'ils comprennent la nature puis qu'ils soient capables d'informer. Ça, c'est une obligation pour le juge ou la juge de s'assurer, parce que d'enclencher un procès criminel de quelqu'un qui comprend rien, ça peut pas exister. Donc là, on parle de l'aptitude. L'aptitude à avoir son procès. L'aptitude. Cette aptitude-là, oui, au premier palier, les juges peuvent l'ordonner. Si la personne refuse, ben, il va rester tout simplement dans un hôpital psychiatrique.
Oui.
Jusqu'à ce que, pour une raison X, il redevienne apte. Et s'il vient, ne redevient jamais apte, ben, il va rester là pour le restant de ses jours. Ça, c'est la première étape. La non-responsabilité criminelle. C'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale, pas pour subir son procès, puis pour comprendre, puis etc., mais pour prouver au tribunal par prépondérance de preuves, puis en plus, c'est l'accusé qui a cette obligation-là.
Oui.
L'accusé, en défense, doit soulever son problème de santé mentale. C'est une question de droit pour le tribunal de dire oui ou non, mais après ça, c'est une question d'évaluation par le jury qui va décider si oui ou non il était responsable au moment de l'acte. On ne parle
donc
pas
en 2018 quand il aurait poussé l'homme dans le métro. On cherche à déterminer s'il avait toute sa tête à ce moment-là.
Exactement. Puis là, on parle pas d'un acquittement, on parle d'un non-responsabilité.
Mais ça, c'est important, parce qu'on pense souvent, puis ça, c'est ça qui choque les gens, c'est parce qu'on a dans notre idée que quand on a une irresponsabilité criminelle qui est prononcée, ça égale acquittement, mais c'est pas
non,
ça
c'est
du
faux.
Tout.
Non, c'est faux. Ils sont. Puis je sais qu'on a malheureusement l'image du dossier de l'affaire Turcotte.
On pense toujours à ça.
Tout le temps. Le premier procès où il avait été trouvé non criminellement responsable. Puis après ça, quelques mois après, on l'avait vu en bicyclette. Même, je pense qu'il y avait un enfant dans un panier. En tout cas, c'était hallucinant là de voir. Bon, mais ça, c'est pas la responsabilité. C'était la responsabilité de la commission là qui s'occupe de ceci pour la santé mentale. Mais en soi, c'est jamais un acquittement, une non-responsabilité criminelle. On dit tout simplement, on ne peut pas mesurer votre responsabilité criminelle parce qu'on a la preuve par prépondérance, par des experts, que vous n'étiez pas responsable au moment de l'acte. Or, dans ce dossier précis dont on parle, ce monsieur-là, il refuse. Ça, il a le droit. Il a le droit parce que c'est lui qui décide s'il veut ou non se faire examiner. Là, on n'est plus dans le même cadre là, qu'avant le procès que le juge doit s'assurer qu'il comprend. Mmh. On est au moment où on retourne en 2018, puis est-ce que à ce moment-là, il était dans un état mental qui fait en sorte qu'il est non responsable? Il veut pas? Ben, il veut pas. Il va avoir une sentence, malheureusement pour lui, de pénitencier, si c'est le cas, mais ça veut pas dire qu'il l'aurait eu non plus un verdict de non-responsabilité criminelle. Puis la différence, c'est qu'il n'aurait pas été dans un pénitencier.
Oui, parce qu'on a toujours peur. Là, on dit tout le temps, ben là, si tout le monde se met à plaider ça, mais c'est pas si facile que ça, là.
Alors, c'est les deux façons de le voir. Avant le procès, un pendant le procès, puis le résultat au final est très, très, très différent parce qu'il y en a un qui s'en va derrière les barreaux, puis l'autre au pénitencier, puis l'autre s'en va dans un institut psychiatrique.
Nicole, merci beaucoup. À demain.
À demain. Merci. Au revoir.